Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Flech qui nous parle de son actualité culturelle protéiforme. Bonsoir Gérard.
Bonsoir. Comment allez-vous ?
Eh bien, tout va très bien. Et pour vous ?
Ça va impeccable.
Alors, en général, je commence cette émission en disant quelques mots de présentation de notre invité. Mais avec vous, quelques mots, ce n'est pas possible parce que vous vous intéressez à tant de choses qu'il est difficile de résumer. Alors, je vais quand même me lancer et puis évidemment, on reviendra sur tous ces points. Alors, vous avez été successivement, et vous êtes encore, formateur, enseignant à l'université, consultant, journaliste, communicant, écrivain, concepteur de programmes culturels pour la radio, la télévision et la presse écrite, poète et concepteur d'un podcast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, c'est impressionnant. Effectivement, non, je pense pas. Je pense que vous avez dit à peu près tout. Évidemment, je n'ai pas tout fait en même temps. Ça a été sur plusieurs, on va dire plusieurs dizaines d'années maintenant, puisque j'approche la soixantaine. Mais oui, je pense que vous avez dit à peu près toutes les expériences par lesquelles je suis passé. Plus je sors d'une expérience de 10 ans dans la communication d'entreprise, chose que je ne mets pas forcément en avant. Voilà, mais globalement, non, vous avez vu juste.
Voilà, donc des activités différentes, riches, mais qui pourraient avoir une ligne directrice. Et on pourrait la résumer par cette idée de transmettre au plus grand nombre l'intérêt, le goût, le savoir de la culture. Est-ce que cette phrase vous convient ?
Ça me convient parfaitement. Ça a toujours été ma ligne directrice qui est celle de transmettre. Celle d'instruire aussi, puisque effectivement j'ai été quelques années professeur à la fac à Paris-Dauphine, mais au-delà d'ailleurs, dans mes différentes expériences, y compris dans ma dernière expérience de communication d'entreprise, j'ai toujours cherché à transmettre et quelque part à instruire dans le sens élever les, par la culture ou par l'histoire, puisque je suis aussi un passionné d'histoire, les gens qui étaient face à moi, quel que soit leur profil.
Qu'est-ce que pourrait être pour vous la définition de la culture ?
Oh, la culture, c'est... Il y a plein de définitions. Il y a des belles définitions qu'on connaît, notamment celle de Malraux, celle de, d'autres. Et puis, malheureusement, il y a des définitions négatives, comme celle des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, la culture, c'est ce qui reste quand tout a disparu, quand les débats s'arrêtent, Voilà, la culture, c'est quelque chose qui doit être permanent. Et puis, comme vous avez utilisé magnifiquement l'épithète de protéiforme, je pense que la culture, c'est quelque chose de protéiforme. On peut trouver de la culture dans quelque chose de très banal et inversement, dans ce qui est la culture officielle, on peut trouver des choses très, très pesantes. Mais la culture, c'est omniprésent. Il faut qu'elle soit... on ne peut pas vivre sans culture. Comme on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans oxygène, on ne peut pas vivre sans pain, etc. Si, sans pain, on peut. Mon nutritionniste me le dit régulièrement.
Qu'est-ce qui vous anime, Gérard ?
Qu'est-ce qui m'anime ? Je ne sais pas, peut-être... Alors déjà, ce qui m'anime aujourd'hui n'est pas forcément ce qui m'animait il y a quelques années. Et avec les années qui passent, cette volonté de transmettre que vous évoquiez, elle se fait encore plus pressante. Puisque moi, j'ai des enfants, j'ai même aujourd'hui une petite fille. Donc, ça veut dire que j'ai envie de laisser une trace. Il y a eu un débat récemment là-dessus, faut-il laisser une trace, notamment quand on est juif et qu'on a vécu un certain nombre de choses dans sa vie. Moi, j'y crois fortement. Alors, ça peut prendre des formes très, très différentes. Pour certains, ça va être laisser simplement un journal. Pour d'autres, ça va être laisser un témoignage vidéo ou écrit. Pour d'autres, c'est simplement créer. Et créer, encore une fois, la création, elle peut prendre des formes très, très, très variées. Vous avez noté que je faisais notamment de la poésie, mais j'écris aussi un roman depuis pas mal d'années maintenant.
Alors, on va en parler dans un instant.
Ouais, depuis très jeune, j'ai écrit. Voilà. Ouais.
Alors justement, parmi vos actualités, parce qu'il y en a plusieurs, il y a ces recueils de poésie qui ont été publiées récemment, Le premier, c'est La Flamme retrouvée aux éditions Le Lys Bleu, qui est apparu en juillet 2023. Puis un second, il y a quelques semaines, La Fuite monotone et sans hâte du temps aux éditions BOD. Alors je vais lire l'un de ses poèmes qui s'appelle Le Être, pas le néant. J'aime le être plus que le chêne, le bouleau ou le peuplier. On le dit commun, il y a comme un profond malentendu. Pour moi qui aime la nature, le être est jovial, son feuillage souriant. Si j'étais peintre, j'aimerais remplir mes toiles de ses troncs et de ses branches, de ses feuilles abondantes qui me souhaitent la bienvenue quand je m'assois au pied de l'un d'entre eux. Pour leur rendre ce qu'ils me donnent, ces êtres singuliers, l'insoutenable alacrité de l'être en somme. Pourquoi avoir choisi ce moyen d'expression qu'est la poésie ?
Je pense que j'ai vu récemment une interview d'Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, qui a été, qu'on a vu sur toutes les télés au moment de l'hommage, au moment de l'entrée pardon, de Missak Manouchian et sa femme au Panthéon. Il explique que, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel. D'ailleurs, lui, il parle de poésie minute, c'est-à-dire d'écrire quasiment de manière automatique. On sait que l'écriture automatique, notamment chez les Oulipiens, que ce soit Pérec, Queneau, etc., c'est quelque chose qui a été très, très, qui a eu beaucoup de succès. Moi, pourquoi j'écris de la poésie, je ne saurais pas dire si ce n'est que ça m'apaise. Que les douleurs de l'existence, et j'en ai eu un certain nombre, comme tout le monde, elles passent mieux, elles s'évaporent mieux quand j'écris.
Est-ce que vous pensez au public qui réceptionne les poèmes quand vous écrivez ?
C'est une bonne question, parce qu'au début, non. Au début, pas du tout. Je ne pensais même pas, pour dire vrai, je ne pensais même pas les éditer, en réalité. J'en ai des dizaines, hein. Là, par exemple, dans celui que vous avez devant vous, La Flamme retrouvée, il y a 60 textes à peu près. Et sur la période que où j'ai compilé les textes pour ce recueil, il y en avait à peu près 300 que j'avais écrits. Donc, j'en avais à peu près écrit un par jour, en moyenne. Et donc, non, au départ, je n'ai pas pensé à écrire pour d'autres, si ce n'est peut-être pour les miens, pour mes enfants, pour mes parents. Et c'est venu comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter Après, sans grande prétention, je sais très bien, je suis chez un petit éditeur. Même le deuxième livre, je l'ai édité pratiquement à compte d'auteur. Donc, je sais très bien que c'est pas, ça ne fera pas des grands tirages, ça ne sera pas... Mais c'est intéressant de savoir. Et puis d'avoir, ce qui m'a beaucoup intéressé, je pense que beaucoup d'écrivains vous le disent, c'est le retour. C'est le retour, parce qu'en fait, une fois que vous l'avez édité, vous le mettez dans les mains des gens. Vous les mettez dans les oreilles des gens, vous les mettez dans la voix des gens. Par exemple, là, vous venez de lire ce texte sur les arbres et il a pris une dimension tout à fait différente parce que c'est vous qui l'avez lu. Avec vos mots, avec votre façon d'énoncer les mots. Et du coup, la poésie, ce n'est pas fait forcément pour la lire dans la tête, c'est fait pour la lire à haute voix. Et là, vous lui avez donné une dimension tout à fait intéressante. Et merci pour ça d'ailleurs.
Avec plaisir, parce que c'est vraiment très joliment tourné. Si une auditrice ou un auditeur de Radio Shalom veut se les procurer, c'est facile ?
Oui, les deux livres sont disponibles aussi bien sur les plateformes les plus connues que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité, ou parce que j'en oublierai sans doute une, et ou bien simplement chez son libraire en donnant le titre ou en donnant l'ISBN que... c'est-à-dire le code d'identification unique qu'on peut trouver très facilement sur Internet.
Donc, je rappelle les titres, hein, La Flamme retrouvée aux éditions Le Lys Bleu et La Fuite monotone et sans hâte du temps, c'est vraiment joli, aux éditions BOD.
Oui, alors justement, une petite précision par rapport à ce deuxième titre, puisque le titre n'est pas de moi. Hein. Le titre, c'est un vers. Et au début, moi, je connaissais ce vers dans une chanson qui a dû vous marquer comme moi, qui est Nuit et brouillard, la chanson de Jean Ferrat, enfin qui a été autour de Nuit et brouillard, et ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, etc. Et à un moment donné, il y a ce vers, et j'ai longtemps pensé, même encore au moment où je l'ai utilisé comme titre pour ce livre, j'ai longtemps pensé que c'était Jean Ferrat qui l'avait écrit. Et en réalité, voilà, par exemple, une utilisation de l'intelligence artificielle qu'on n'imagine pas, mais j'ai tapé dans ChatGPT ce titre, et grande surprise, je m'aperçois que ce n'était pas un vers de Jean Ferrat, mais de Charles Baudelaire. Et en fait, Jean Ferrat a utilisé un vers de Charles Baudelaire à l'intérieur du texte de sa chanson, qui par ailleurs est magnifique, aussi bien l'orchestration, magnifique et bouleversante.
Vous avez employé plusieurs fois deux mots depuis que nous discutons, c'est celui de culture et celui de transmission. Évidemment, quand on pense à ces mots, on pense à au judaïsme. Et vous êtes vous-même au carrefour de deux cultures, Ashkenaz par votre père, Séfarade par votre mère, et puis on peut en rajouter une troisième, évidemment, la française par votre éducation, culture, transmission universelle. Est-ce que cette diversité, pour vous, est un plus ?
C'est clairement une richesse. Alors, effectivement, comme vous m'avez présenté, vous avez dit Gérard Clèche, parce que c'est sous ce nom-là que j'écris, qui était le nom que j'utilisais quand j'étais journaliste. J'ai été 18 ans journaliste avant de faire paraître ces livres. En réalité, mon vrai nom, c'est Kleshevski. Donc, Clèche, c'est une contraction de mon vrai nom. C'est même une bretonisation. Je rigolais en disant ça, puisque Clèche, en breton, ça veut dire cloche. Donc, ce qui est pas très... Je l'ai su par la suite.
Vous qui l'avez francisé, votre père ?
C'est moi. Non, mon père, il a gardé son nom. Et mon grand-père aussi. Il y a ma maman, bien avant qu'elle décède, là, elle est décédée il y a quelques temps, qui avait repris son nom de jeune fille en Israël, parce qu'ils ont fait leur alia. Elle avait repris son nom de Yerushalmi, parce qu'on est aussi descendant d'une famille de poètes et d'écrivains venant de Tunisie, mais surtout venant de Géorgie, probablement de Turquie, enfin en tout cas du bassin du Bosphore. Et voilà, donc effectivement, je suis un mélange, je suis un être hybride. Je pense que c'est une vraie richesse à tout point de vue. Vous l'avez dit, j'ai aussi une culture française très importante, très trempée. Probablement parce que j'ai aussi vécu les 17 premières années de ma vie, non pas à Paris, en région parisienne, où il y avait beaucoup de juifs, mais dans une petite ville de province et de Provence, qui est très connue aussi, mais qui est petite, qui s'appelle Manosque, qui était la ville de Jean Giono, l'écrivain Jean Giono, de Pierre Magnan et d'autres écrivains.
Quelle chance !
Voilà. Et donc, oui, quelle chance, mais en même temps, il faut savoir que Manosque a été longtemps, en tout cas jusqu'au XIVe siècle, une ville où il y avait beaucoup de juifs. Et il y a eu la fameuse, les fameux, entre guillemets, pogroms, ou les fameux massacres de juifs provoqués par les évêques du coin qui lançaient contre les populations juives la population autochtone, entre guillemets autochtone, c'est-à-dire non juive, au prétexte qu'il y aurait moins de victimes, en tout cas que les juifs seraient à l'origine de la peste. Et donc, d'une ville où il y avait beaucoup de juifs, c'est devenu une ville où il n'y en avait plus, ou quasiment plus. Judenrein, comme disaient les Allemands, les nazis. Mais ce qui était impressionnant, c'est que c'était une ville où il n'y avait plus de juifs, mais où le judaïsme était quand même partout. C'est-à-dire qu'il y avait des traces dans les rues, dans les noms des rues. Il y a toujours une rue des Hébréards à Manosque. Hébréards en provençal, ça veut dire les Hébreux, les Juifs. Aussi, malheureusement, dans l'antisémitisme, il y a une forme d'antisémitisme latent, permanent, en Provence, y compris chez des gens qui n'ont jamais croisé un juif de leur vie. Et puis Manosque, récemment, alors là, je parlais d'une... Vous qui êtes historienne...
Ça m'intéresse beaucoup.
Ça va vous parler. Récemment, sur une des principales collines qui environne la ville de Manosque, qui s'appelle la colline de Toutesor, où se trouve d'ailleurs la clinique où est né mon petit frère. Petite anecdote, petit clin d'œil à lui s'il entend. Un monsieur voulait construire une villa. Il veut construire une villa dans une colline qui est assez bien fréquentée, où il y a beaucoup de villas, beaucoup de pavillons. Et vous savez comment ça se passe quand on veut construire une villa à un endroit qui n'a jamais été encore exploré, encore creusé, etc. On envoie les services de l'État, on envoie des archéologues, etc. Et ils se mettent à creuser, et quelques mètres sous terre, ils tombent sur une nécropole de dizaines de tombes juives. Voilà. Et donc, bon, le monsieur, je suppose, a dû déplacer son projet de construction de villa. Mais en tout cas, c'était bien la preuve que pendant des dizaines d'années, il y avait une présence juive massive. Et comme on le sait, les juifs n'enterrent pas dans les centres-villes, mais aux environs des villes. C'était le cas là encore. Voilà. Et donc, oui. Pour revenir à votre question, parce que j'ai fait une longue digression.
Voilà. Est-ce que le judaïsme conditionne vos engagements, vos activités professionnelles, de passion liées à la culture ?
Mais bien sûr. Et je dirais, plus le temps passe, plus c'est le cas. C'est vrai que quand j'habitais en Provence, on faisait profil bas. On vivait notre judaïsme de façon très privée à la maison. On avait maman était pratiquante, mon père l'était beaucoup moins. Il était sorti de la guerre comme toute sa famille, très meurtri. Mon père, c'est un, on peut dire, c'est un rescapé de la Shoah, puisqu'en fait, ils ont réussi in extremis, pratiquement à 24 heures de la rafle, d'une rafle qui devait les amener à Auschwitz. Ils ont réussi à s'évader, à partir avec des faux papiers, etc. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la famille de mon père parce que ça serait très long. Mais oui, mon père n'était pas, quand il a connu ma mère, n'était pas du tout pratiquant ou très peu. Et ma mère l'était beaucoup plus parce qu'elle venait de Tunisie. Et donc, en Tunisie, ils avaient connu les affres de la guerre, mais ils n'avaient pas connu l'extermination de masse. Et ça changeait beaucoup de choses.
Est-ce que pour vous, vous entrez dans cette idée que le judaïsme, qui est un particularisme, eh bien fait partie du grand débat des cultures, que finalement revenir à ses origines juives, quel que soit son niveau et son degré de pratique, hein, peu importe, eh bien ça permet de toucher tous les sujets, de toucher l'universel.
Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait clair. Que ce soit, on le voit aujourd'hui quand on relit Lévinas, quand on relit même Albert Mimi, quand on relit... quand on relit Yankelevitch, on s'aperçoit à quel point le judaïsme, il est vraiment au creuset de toutes les cultures. Pendant des années, j'entendais à la télévision notamment ou à la radio, j'entendais ce fameux terme, la civilisation judéo-chrétienne, et je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais plus je vieillis et plus je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre société, on va peut-être en parler, qui est fracassée de... qui est fracassé par plein de mouvements en même temps violents et en même temps contradictoires, à commencer par le wokisme. Pendant des années, en fait, on a vécu sur cette rente, entre guillemets, cette rente culturelle et historique à la fois au judaïsme et au christianisme. Et aujourd'hui, malheureusement, certains diront heureusement, mais moi, en tout cas pour moi, je dis malheureusement, on n'est plus tout à fait dans cette perspective et dans cette vision des choses.
Et dans cette histoire tragique, il y a eu le 7 octobre, qui a peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, catalysé des choses qui étaient en sommeil auparavant. Le rapport des Français d'autres confessions à la démocratie, la place des Juifs, cet antisémitisme qui n'a jamais vraiment disparu, cette angoisse ontologique de tous les Juifs dans le monde entier, non seulement face aux horreurs de ce qui s'est perpétré et puis la crainte de ne plus considérer l'État d'Israël comme un État refuge, mais aussi sa précarité en tant que juif dans un pays de diaspora.
Tout à fait. Je pense que le 7 octobre, quand vous parlez de catalyseur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout était déjà là, tout était déjà sur la table. À la fois les actes antisémites, les crimes antisémites. Et aujourd'hui où on se parle, même si ça ne sera pas diffusé aujourd'hui, mais je peux vous le dire aujourd'hui, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un anniversaire, c'est... Il y a 7 ans exactement, Sarah Halimi était assassinée, jour pour jour, le 4 avril 2017, en pleine campagne présidentielle, en tout cas dans la phase d'approche des élections présidentielles. Et je pense que tout était là. On était choqués à chaque fois, on se disait, avec cette fameuse tarte à la crème du plus jamais ça, du never again, etc. En réalité, la société française est comme les autres sociétés occidentales, confronté à des mouvements très très violents dont on n'en percevait pas forcément tous les détails et que le 7 octobre a permis de révéler vraiment au grand jour. Et ma vision des choses, c'est que le 7 octobre a été un tremblement de terre, mais qu'on est en train depuis de vivre toutes les répliques sismiques et l'antisémitisme débridé s'est exprimé dès les premières heures, dès les premiers jours de l'agression du Hamas en Israël. On n'a pas attendu, une riposte de Tzahal à Gaza. Et alors bon, évidemment, depuis la riposte à Gaza, ça s'est encore fait x5 ou x10. Mais oui, cette vision du catalyseur, c'est tout à fait ça. C'est tout était là sur la table, tout était sinon visible, du moins latent pour certaines choses. Et malheureusement, le 7 octobre, les chevaux ont été libérés.
Alors, vous parliez de Sarah Halimi. Vous avez participé en 2023 à l'ouvrage collectif « L'invisible de la rue Vaucouleurs » aux éditions David Reynarc.
Comme vous, je crois.
Et comme moi, exactement. Donc, consacré à cette dramatique affaire de l'assassinat de Sarah Halimi. C'est cet anniversaire que vous rappeliez. Vous écrivez régulièrement aussi dans Tribune Juive pour lancer des alertes. Est-ce que l'heure est grave, selon vous ?
Oui, l'heure est grave, mais en même temps, on a en nous une forme de résilience, sans vouloir paraphraser ou sans vouloir imiter le génial Boris Cyrulnik. On a une forme de résilience qui fait que on garde toujours au fond de nous cet espoir. C'est pas pour rien que l'hymne israélien s'appelle Atikva, c'est qu'on a en permanence en nous cet espoir que les choses vont aller mieux, que les choses vont changer. C'est très difficile de garder cet espoir en ce moment, j'avoue. Mmh. Et je fais partie de ces Juifs qui sont meurtris par ce qu'ils peuvent entendre, par ce qu'ils peuvent lire, par ce qu'ils peuvent voir. J'ai encore entendu des choses ce matin, alors que je faisais une queue dans une administration française. J'ai entendu des choses absolument abominables.
La parole s'est libérée ?
Ah oui, la parole s'est totalement libérée, elle est débridée. Mais parce qu'elle s'est libérée, parce qu'il y a des gens qui ont permis qu'elle se libère. Il y a à la fois une facilité à dire les choses, et puis surtout, moi qui connais un petit peu le sujet, les réseaux sociaux, quand vous parlez de catalyseurs, les réseaux sociaux et en particulier X, donc ex-Twitter, sont des armes de destruction massive, de la pensée et de la réflexion. Quand vous voyez certains propos tenus sur X, au début on disait, bon, on va les signaler, etc. Il y avait très peu, voire pas du tout de modération. Et depuis que c'est Elon Musk, c'est encore pire. Puisque lui, il a carrément théorisé le fait qu'il faut laisser la parole. Pourquoi reviendrait-il là-dessus? Même s'il dit qu'il essaie de faire des efforts, etc. Donc il y a très peu d'efforts faits au niveau de la modération. Et n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, l'un des propos que j'ai entendu ce matin, quand j'ai essayé de discuter avec la personne, mais je crois que c'est... Avec certaines personnes, il est inutile de discuter, malheureusement. Il m'a dit, mais moi, je ne regarde plus les télés, je n'écoute plus les radios, je n'écoute plus les médias qui sont vendus à Israël et aux Juifs. C'était ses mots. Je m'informe uniquement par ce que je lis sur Internet. Mais le problème d'Internet, c'est les algorithmes. Et on sait, par exemple, qu'entre X et Facebook, qui sont en guerre plus ou moins ouverte, les algorithmes sont très différents. Sur X, on vous propose sans arrêt des contenus qui vont vous faire réagir et des contenus opposés à ce que vous pensez, parce qu'on a analysé ce que vous pensez, on sait ce que vous pensez, on sait quelles sont vos idées. Alors que sur Facebook, c'est l'inverse. On vous propose toujours, vous êtes dans un couloir, imaginez une piscine, vous êtes dans un couloir de piscine et vous ne voyez que les gens qui sont dans votre couloir. Vous ne voyez pas ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui pensent différemment de vous. Donc dans un cas, votre opinion, elle est maintenue en permanence par les gens qui pensent comme vous. Et dans l'autre cas, le débat, si on peut parler de débat, le conflit est ouvert parce qu'on fait exprès de vous confronter à des gens qui ne pensent pas comme vous. Un exemple tout bête, la fameuse Zineb El Razoui que tout le monde a soutenue ici quand elle était en but aux menaces des islamistes, etc., qui a été soutenue, qui a été même protégée par l'État, etc. On sait que depuis le 7 octobre, elle s'en donne à cœur joie en sens inverse, en tapant sur Israël, en tapant sur les Juifs, en faisant mine de taper sur Netanyahou, mais en réalité, elle tape sur Israël et les Juifs. Zineb El Razoui, moi, je voyais très peu ses contenus avant. Et maintenant, à quasiment chaque alerte Twitter ou X que m'envoie X, j'ai un post de Zineb El Razoui. Donc, c'est à moi de décider si je veux la bloquer. Moi, pourquoi je la bloquerais? Moi, je bloque personne. Je me suis fait bloquer par pas mal de gens. Parce que certaines idées ne sont pas consensuelles et puis parce que certains propos ne sont pas audibles, mais moi je bloque pas, enfin j'ai très peu bloqué en tout cas. Il fallait vraiment que ça en arrive à l'état d'insulte ou de menace pour que je bloque, mais signaler ça sert à rien, je l'ai dit avant, puisque malheureusement la modération est très très faible sur X. Et puis encore une fois, donc vous êtes confronté à des gens comme ça qui... Voilà, là, bon, on ne savait pas qu'elle allait se retourner à ce point-là, parce que là, c'est vraiment très impressionnant, parce que surtout, elle avait tenu un silence pesant pendant des mois et des mois. Et voilà, bon, je ne vais pas faire deux heures sur Zineb El Razoui, mais voilà, je pense avoir répondu à votre question, oui.
Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Gérard Klesch, qui nous parle de ses actualités. Il y a, je crois, des projets, un recueil de nouvelles, l'écriture d'un roman et d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, le recueil de nouvelles, il existe déjà. Il est encore on va dire, à travailler, à améliorer avant qu'il soit éventuellement proposé à un éditeur. Le roman, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Je ne peux pas vraiment en parler, mais disons que ça, je parle de personnages. Il se trouve que ce sont 4 personnages juifs à travers l'histoire, dès la fin des années 50 à 2020. Ça s'arrête en 2020. Et confronté à un personnage imaginaire qui est du coup la mère du narrateur. Et moi, mon problème, et c'est pour ça que je l'ai arrêté à un moment donné, il faut vraiment que j'y retravaille, c'est que je tenais absolument, et ça va vous parler, vous qui êtes historienne, à la vérité historique. Pas simplement à la véracité, mais à la vérité historique. Parce que, évidemment, un roman, on peut se laisser aller, on peut se laisser aller à imaginer des choses qui n'ont pas existé. Mais encore faut-il qu'elles soient
dans un contexte réel.
Mmh. Et donc, ça veut dire que je me suis beaucoup, beaucoup documenté. Je peux juste dire qu'effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de Sarah Halimi. Sarah Halimi fait partie des personnages dont je parle dans ce roman. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup passionné à cette question, à ce malheureux drame, à cette chose affreuse qui s'est passée rue de Vaucouleurs. Et parce que ça me semblait caractéristique et ça me semblait, bien avant le 7 octobre, très important de comprendre ce qui s'était passé et de comprendre les différents fiascos qui se sont succédés les uns derrière les autres pour arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès, que l'assassin est sinon libre, du moins toujours en HP, en hôpital psychiatrique, probablement pour pas grand-chose, puisque il y a eu toute une question autour de l'expertise médicale. Bon, enfin voilà, donc Sarah Halimi fait partie des personnages. Donc je vous ai parlé du recueil de nouvelles qui est encore en devenir, du roman sur lequel j'ai un peu stagné depuis...
La pièce de théâtre.
Et la pièce de théâtre, elle n'est pas terminée, mais elle avance. Et pareil, elle parle d'un sujet de société. Et ça sera ma première pièce de théâtre, parce que j'ai écrit beaucoup... j'avais écrit des petites scénettes, des petites pièces de théâtre à l'époque où j'étais collégien puis lycéen. Parce qu'à l'époque, je faisais un peu de théâtre. Mais en fait, c'était pas la forme la plus avec laquelle je me sentais le plus à l'aise, parce que c'est très dialogué évidemment une pièce de théâtre, donc il faut maîtriser le dialogue, faut maîtriser les reprises, etc. Faut maîtriser aussi l'espace.
Il y a beaucoup de codes.
Il y a beaucoup de codes que je n'avais pas ou j'avais peu. Et d'ailleurs, je dois reconnaître ici, je lui rends hommage. J'ai eu un prof de français absolument exceptionnel qui est devenu par la suite producteur de radio et de télé. Qui a notamment travaillé avec les frères Bogdanov et qui a notamment été l'un des co-créateurs du Boulevard de l'Étrange sur France Inter, et qui s'appelle Jean-Yves Casga, et c'était mon prof de collège à Manosque. Un grand bonheur de l'avoir eu.
Parmi vos activités, fin février dernier, vous avez lancé en diffusion hebdomadaire tous les mardis un podcast.
Mais vous savez tout ?
Et oui ! Alors comment il s'appelle ? Le Bonheur, c'est les autres, dans lequel vous interviewez des personnalités du monde des arts, des écrivains, intellectuels, chanteurs, historiens, sur leur rapport à la vie et au bonheur. Votre premier invité était Alexandre Jardin. Pourquoi ce podcast et pourquoi ce thème ? Est-ce que c'est une sorte de résilience face à un contexte compliqué ? On a envie d'entendre parler de bonheur et en plus de rapport à l'autre aujourd'hui.
Je crois que vous m'avez percé à jour. Je crois que vous me connaissez bien, Sandrine, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un podcast sur lequel j'avais travaillé, j'avais commencé à réfléchir depuis plusieurs mois. Et arrive le 7 octobre et je me dis vraiment, on est dans une société compliquée, on est dans une société anxiogène, on est dans une société, particulièrement la société française, qui est pessimiste. On est un des pays les plus pessimistes du monde. Je crois qu'on est le troisième pays le plus pessimiste du monde après des pays comme l'Afghanistan. On est un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs dans le monde. Et je me suis dit, il faut retrouver une source de bonheur. Et c'est compliqué d'en trouver une. Et c'est vrai que chez nous, les Juifs, on a toujours cette ambivalence entre la grande tristesse, de tout ce qui se passe malheureusement par rapport à nous, et en même temps, cet espoir dont je parlais tout à l'heure, cette envie de vivre qui nous est chevillée au corps. Et on le retrouve dans tout, dans la littérature, dans les chansons, même dans la bouffe, dans la gastronomie. Moi, j'adore toujours cette blague qui est comment résumer la religion juive en trois phrases. Ils ont essayé de nous tuer, première phrase. Nous avons survécu, deuxième phrase. Mangeons, Et voilà, je pense que ça, ça caractérise bien les fêtes juives et le judaïsme. Maintenant, donc effectivement, je l'avais mis un peu sous le coude, ce projet de podcast auquel j'avais pensé depuis des mois. Et j'ai commencé à enregistrer des gens. Et il se trouve que la première personne que j'ai enregistrée, c'était rien moins qu'Alexandre Jardin, qui est quand même un écrivain. Alors, il n'est pas, comment dire, il n'a pas forcément sa carte partout. Il est pas, il passe pas dans les grands... Si, il passe dans les grands médias, mais... disons
enfin,
que
il est moins médiatique que d'autres.
Il est moins médiatique que d'autres.
C'est
un grand écrivain français. Ouais. Il a un charisme. Moi, qui l'ai vu en vrai, qu'il avait déjà vu avant, mais qu'il est revu pour cet enregistrement, il a un charisme absolument incroyable. C'est un homme d'action. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit lors de ce premier épisode. Il m'a dit que pour lui, le bonheur, c'était l'action. Il fallait bouger, fallait se bouger. Fallait pas se lamenter sur son sort. Fallait avancer. Et là, il vient de sortir un livre sur la passion de l'écriture et surtout de la lecture. Il voudrait que les gens lisent. Il voudrait que les gens, on parlait tout à l'heure de l'importance de la culture, il voudrait que les gens se cultivent. Voilà. Et donc, j'ai eu ce premier épisode avec Alexandre Jardin. Puis, j'ai enregistré d'autres personnes derrière, des hommes, des femmes, venant de différents univers, venant de différentes cultures, exerçant des métiers différents. Et petit à petit, ça a pris forme. Et puis, arrive le 7 octobre. Puis arrive un drame dans ma famille et je me dis je vais tout laisser tomber, je vais pas le faire parce que ça va être trop, j'ai pas la tête à ça, etc. Et c'est les gens autour de moi qui savaient que je menais ce projet depuis des mois qui m'ont dit mais n'abandonne pas, faut le faire, faut voilà. Alors je le fais avec mes moyens à moi, c'est-à-dire assez dérisoire, avec j'ai pas un beau studio comme vous ici à Radio Shalom, j'ai des micros XLR que j'ai acheté sur mes deniers propres, j'ai un petit enregistreur. Avant, on parlait de Nagra à l'époque où j'étais jeune journaliste. Aujourd'hui, j'ai un Zoom. Alors, ceux qui font des enregistrements et des podcasts me comprendront. Donc, ça me permet d'être autonome, d'aller voir des gens. Et puis, je dirais que même au-delà du fait que je les diffuse et que je les diffuse sur un rythme hebdomadaire tous les mardis.
Alors, comment les écouter, justement?
Il est. Donc, Le Bonheur, c'est les autres. Il est disponible sur toutes les grandes plateformes, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast qui est en train de disparaître. Malheureusement, j'ai appris ça hier. Sur Deezer, sur Spotify, etc. C'est également disponible sur YouTube et sur SoundCloud, qui est la plateforme gratuite et la plus connue, open source. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, la plateforme gratuite la plus connue. Donc, c'est un peu disponible partout. Et je le diffuse aussi, je le relaye sur ma page, sur mes pages, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en fait, tous les mardis, je diffuse un épisode. Je pense qu'il y aura une pause probablement au milieu de l'été parce que les gens ne seront pas du tout mobilisés. Soit ils seront en vacances, soit ils seront en train de souffrir des affres des Jeux Olympiques. Et donc ils auront autre chose à faire qu'écouter mon podcast. Quoique dans les bouchons, peut-être que ça peut être sympa.
Oui, ça peut être utile, oui.
Voilà. Mais je reprendrai à la rentrée. Donc la saison 1 se termine probablement fin juin et la saison 2 démarrera en septembre. Juste avant les fêtes de Tichri, probablement. Et d'ailleurs, je peux le dire à votre micro, s'il y a parmi vos auditeurs un sponsor ou quelqu'un qui veut m'aider, sachant que ce podcast n'a pas vocation à gagner de l'argent. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il en perd, puisque c'est moi qui le finance intégralement, y compris la plateforme sur laquelle j'édite les épisodes. Donc, il n'a pas vocation à gagner de l'argent, mais ça serait bien que je n'en perde pas. Donc,
voilà, le message est donné. Ah, s'il y avait un sponsor, vous pouvez me contacter.
Un généreux donateur.
Un généreux donateur. Vous parliez en introduction de la définition de la culture. C'est ce qui reste quand tout a été oublié. Et ça me faisait penser à la gastronomie. Dans les familles juives, quand il ne reste plus rien, plus de la langue, plus les habitudes religieuses, les rites, etc. Qu'est-ce qui reste? C'est les traditions culinaires, les saveurs. Est-ce que vous auriez quelque chose en route autour de la gastronomie?
Non, mais peut-être, il faudrait que j'y pense. Je suis un gourmand. J'aime beaucoup tout ce qui est surtout tout ce qui est sucré, ce qui est du coup plus mon côté séfarade que mon côté ashkénaze, parce que chez les ashkénazes.
Ah si, le sucre.
Oui, c'est
oui,
vrai.
Dans les
vrai.
Cornichons,
oui,
avec
oui, y a
la
des
betterave.
Trucs. Oui, ouais. Bah, surtout des mélanges sucrés-salés.
Ouais.
Oui. Et puis ma grand-mère faisait des boubeleux comme personne. Avec de la farine, on va bientôt être dans Pessard, avec la farine de matza, elle faisait des boubelas absolument extraordinaires. Mais moi, je retiens plus côté ashkénaze, les choses comme le foie haché ou des choses comme ça. Alors que côté séfarade, c'est vrai que les pâtisseries que faisait ma mère, tous les shabbats étaient absolument exceptionnels. Elle avait une recette rien qu'à elle, alors que tout le monde connaît le boulou. mais elle avait une recette rien qu'à elle du boulot. Et quand quelqu'un a goûté son boulot, il voulait absolument avoir sa recette. Et comme elle était généreuse, elle l'a transmettée.
Toutes les mères tunisiennes ont leur recette du boulot et c'est toujours le meilleur. Qu'est-ce qui vous fait courir, Gérard ?
Qu'est-ce qui me fait courir ? Peut-être que je m'appelle David aussi, non ? Parce qu'il y avait un film qui s'appelait « Qu'est-ce qui fait courir David ?»
C'est votre deuxième prénom ?
C'est mon deuxième prénom, oui. Qu'est-ce qui me fait courir ? L'amour des autres, l'amour des miens, l'amour de celle que je vais bientôt épouser, puisque je me remarie bientôt.
Mazal Tov.
Merci. Un petit clin d'œil à elle. Et qu'est-ce qui me fait courir ? Je pense la passion d'apprendre et la passion de transmettre. Et la passion de... Alors, elle est un peu émoussée en ce moment, mais la passion de contredire les mensonges, les fake news, toutes sortes d'abus de langage, etc. Et je pense qu'il y a une dignité, chez nous à être résilient, comme vous dites, et à ne pas rentrer systématiquement dans le conflit. Alors, on l'a déjà payé cher pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah. Est-ce qu'on va le payer cher cette fois-ci, encore plus cher ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, je suis inquiet aussi. Je suis inquiet parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants. J'ai deux filles et un garçon. J'ai une petite fille. J'ai une de mes filles qui vit en Israël. Et c'est vrai que je suis quelqu'un aussi d'inquiet. J'ai ce côté-là dans mon caractère. Et voilà. J'aimerais bien ne plus être inquiet, mais je crois que c'est peine perdue. Je crois que c'est un peu co-substantiel de nos vies en tant que juifs, quand bien même on est hyper intégré comme je l'ai été et je le suis toujours à la France.
Il y a une question classique pour terminer, mais néanmoins difficile. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire vos œuvres poétiques, d'écouter votre podcast, de vous suivre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais qu'ils auraient pu le faire eux-mêmes, c'est-à-dire ils auraient pu l'écrire eux-mêmes, ils auraient pu le faire eux-mêmes le podcast, parce que je suis comme eux, j'ai pas de réseau, je connais vraiment pas grand monde. En plus, étant arrivé assez tard en région parisienne, j'avais pas la carte comme on disait, j'avais un accent d'ailleurs quand je suis arrivé à couper au couteau que je n'ai plus, enfin, je crois que je n'ai plus, mais qui revient très facilement dès que je descends dans le sud. Et simplement, voilà, eux-mêmes auraient pu l'écrire, eux-mêmes auraient pu le faire, ce podcast, parce que ça vient de quelqu'un qui est comme eux. Alors, je prétends pas que tout le monde pense comme moi, je prétends pas que tout le monde écrit comme moi, mais c'est ça aussi la culture. C'est le fait que vous, par exemple, je vais vous faire un petit hommage, quand j'ai lu votre livre sur Chouchani, ou même les livres précédents sur
Iliane Amado
Lévy-Valency, ou sur d'autres, j'aurais pas été capable d'écrire ce que vous avez écrit. Parce que ça repose sur un effort documentaire et une recherche et une culture historique que je n'ai pas. Mais en vous lisant, j'ai eu un peu l'impression que oui, j'ai eu peut-être cette sensation à un moment donné. J'aurais bien voulu l'écrire. J'aurais pas pu, mais j'aurais bien voulu l'écrire. Ce que moi je produis, par contre, n'importe qui aurait pu le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la poésie, alors puisque c'est les deux livres de poésie qui sont sortis en premier, alors qu'originellement, ça aurait dû être le roman qui sortait en premier. Je pense que la poésie, tout le monde peut écrire de la poésie, tout le monde peut écrire des petites phrases comme ça, des choses qui viennent à l'esprit. Et j'ai une référence, j'ai essayé de le contacter, mais si quelqu'un peut m'aider à le contacter, j'ai une référence aujourd'hui qui est Arthur Teboul. Arthur Teboul, c'est le chanteur de Feu Chatterton. On l'a vu de manière absolument bouleversante lire le courrier de Misak Manouchian au moment de son entrée au Panthéon. Et il écrit de la poésie, et il écrit de la poésie qu'il appelle de la poésie minute, c'est-à-dire en gros de la poésie qui vient de manière spontanée sous la plume, un peu à la manière de ce que faisaient les Oulipiens, le mouvement Oulipo autour de Raymond Queneau, Georges Perec, etc. Et je pense que moi j'aimerais beaucoup transmettre ça, par exemple. Par exemple, aujourd'hui je fais des choses avec les Cuges, qui est vous connaissez bien les Cuges, je crois, puisque c'est là que se trouve votre institut Elie Wiesel.
Tout à fait.
Et j'aimerais bien transmettre aussi ce goût pour la poésie aux gens, non pas simplement de la lire, mais aussi de l'écrire. Et parce que je pense que tout le monde est un peu poète au fond de soi. Voilà. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. C'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que tout le monde est capable d'être poète.
Merci beaucoup, Gérard, d'avoir répondu à nos questions, de vous être prêté au jeu, d'avoir même évoqué des choses intimes. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et peut-être que pour votre roman, votre pièce de théâtre ou pour votre recueil de nouvelles, vous serez de nouveau parmi nous ici dans les studios de Radio Shalom. Bonsoir et à bientôt.
Bonsoir, ce sera avec un grand plaisir. Merci Sandrine.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.